La seule explication à donner au vaste mouvement de l'histoire et aux fantastiques résultats obtenus par la science, que devrions-nous alors penser de sa cruauté, des guerres, de la marée montante, de la violence? Le moins que l'on puisse dire est que l'homme de notre siècle est loin d'être éclairé. Les progrès sociaux et culturels ne nous aident pas, eux non plus, à comprendre la puissance originelle et le potentiel produisant cette singularité des êtres que nous sommes. Et pourtant, ils existent. La Bible démontre en Genèse 1, 27 que la grandeur de l'homme se situe au niveau de sa création par l'Éternel en disant que Dieu créa l'homme à son image. La créativité, pratiquement sans limite, de l'homme est le produit direct de l'être éternel à l'image spirituelle duquel il a été façonné. David exprime cette idée maîtresse lorsqu'il s'adresse en ces termes à son Créateur : Je te loue de ce que je suis. Une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. Une telle origine explique notre sens inné du devoir, et cela de manière universelle. Saisir la grandeur de l'homme, c'est également fournir la raison au fait qu'il cherche à se dépasser lui-même et à sans cesse accroître sa réalisation. Bien que de nos jours les êtres humains révèlent parfois de fâcheuses tendances et des désirs incontrôlés, il ne faut cependant pas perdre de vue qu'il fut un temps où tout cela faisait partie des éléments et des nécessités primordiales de la magnifique création de Dieu. Par cela, il faut entendre que l'humanité ne possède pas la faculté de percevoir ce que le futur va lui apporter en tant que but à atteindre. La raison en est qu'elle ne peut s'empêcher de tout d'abord regarder en arrière et de voir son histoire plus que mouvementée. Il faut absolument prendre conscience des réalités du début de l'humanité, des conditions de base ayant résulté de la création de l'homme. Chacun d'entre nous doit en quelque sorte recommencer à zéro, retourner aux sources et connaître les éléments ayant tout au début poussé Dieu à dire de sa création « Cela est bon ». En d'autres mots, nous avons besoin d'être spirituellement et même moralement restaurés, tout comme certains tableaux anciens, métaux corrodés et autres maisons décrépites. Mais une question se pose. Que dit la Bible à propos d'un retour de l'homme à son état originel? Jésus, parlant à Pierre, Jacques, Jean, peu après sa transfiguration, affirme que Jean-Baptiste, le précurseur du Messie, était venu pour rétablir toute chose. Un peu plus tard, l'apôtre Pierre, dès la mort, la résurrection, l'ascension du Maître, prêchait à Jérusalem en ces termes. Le ciel doit recevoir Jésus-Christ jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Et cette allusion aux prophètes de l'Ancien Testament nous remet en mémoire les constants encouragements prodigués par Dieu à la tribu de Juda lors de sa captivité à Babylone. « Si tu reviens, dit-il, je te ferai revenir à mon service, car je suis avec toi pour te sauver et te délivrer. Je veux te délivrer de la main des méchants et te racheter de la poigne des violents. » Le mot « restauration » signifie « rétablir quelque chose dans son état primitif ». Et c'est bien là le sens qui lui est donné tout au long de la Bible. La parole de Dieu cite au moins quatre genres de restauration. La première, la restauration des relations existantes entre Dieu et l'homme à l'origine. La deuxième, la restauration de la gloire d'Israël et de la puissance de Canaan. La troisième, la restauration du dévouement et de l'obéissance au Seigneur d'une personne qui lui était fidèle auparavant. Et ensuite, quatrièmement, la restauration de la majesté et de la gloire de l'univers tout entier. Le concept biblique de restauration ne peut se percevoir dans son ensemble sans une compréhension préalable de ce qu'était l'état originel de l'homme. À quoi ressemblait la vie lors de la genèse de l'histoire de l'humanité? Les premiers chapitres de la Bible sont tout à fait clairs et convaincants à ce sujet. Tandis que le reste de la création était suscité selon son espèce, L'homme, quant à lui, était façonné par Dieu à son image, selon sa ressemblance à la ressemblance de Dieu. L'homme, en tant que créature particulière à son Créateur, se voit être choisi pour recevoir une puissance toute spéciale. Dieu dit en effet à son propos qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. De plus, l'Éternel, après la création de la femme, dit au tout premier couple, « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et l'assujettissez. » Tout cela signifie que les êtres humains peuvent dès lors participer à la puissance de l'autorité divine. L'homme, avec l'accord de Dieu, devient pratiquement son mandataire et va prendre part avec lui à l'administration de la terre. En outre, l'homme se voit dès le début attribuer un endroit tout spécial pour y vivre. La Bible relate que l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et y mit l'homme qu'il avait formé. Ce dernier est ensuite doté de responsabilités, ce qui fait de lui une créature non seulement douée de raison, mais par surcroît libre. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. À la lecture de Genèse 2, 16 et 17, il apparaît, et c'est la chose tout à fait normale, que l'Éternel trace toutefois une limite à l'exercice de toutes ses prérogatives accordées. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Comme nous venons de le voir, l'être humain a un rôle tout spécial à jouer et des responsabilités vraiment uniques en leur genre. Il a de plus le plaisir, le bonheur, le réconfort d'une présence féminine à ses côtés. La tentation de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal part de l'elle-même dans les deux premiers chapitres de la Bible sur la condition originelle de l'homme. Il connaît Dieu, son Créateur. Il est créé à son image, selon sa ressemblance. Sa vie a un but. L'ensemble de la création représente pour lui un accomplissement à venir. L'exercice du libre arbitre vient couronner le tout. La décision d'Adam de désobéir aux ordres de Dieu constitue le tout premier exemple de rébellion et de péché. On ne se l'explique pas, et on se l'explique d'autant moins qu'il était pleinement conscient de ce que son Créateur lui demandait. Mais après tout, ne faisons-nous pas identiquement la même chose? Analysons ensemble les conséquences de la désobéissance d'Adam et d'Ève. Premièrement, la relation étroite, ouverte et libre existante entre Dieu et l'être humain est rompue. La Bible nous dit que lorsqu'ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, l'homme et la femme se cachaient loin de la face de l'Éternel Dieu. L'être humain le fait encore et depuis ce jour-là. Deuxièmement, en acceptant la responsabilité de connaître le bien et le mal, l'homme inaugure la liste des interminables batailles perdues contre ces deux puissances. L'histoire de l'humanité n'a cessé de l'attester jusqu'à nos jours. Adam et Ève sont également devenus conscients de leur chute. Il s'agit là de quelque chose d'intolérable. Nous nous en rendons compte lorsque nous lisons le récit de leur chute dans la Genèse. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Et que virent-ils? Le péché dans toute son horreur. La malédiction, c'est le troisième point. La malédiction que Dieu lance sur leur rébellion s'inscrit encore dans notre cœur en lettres de feu. C'est la lutte sans merci que se livrent en nous le bien et le mal. C'est le poids des relations tendues pesant entre homme et femme, mari et épouse. Ce sont les cris de douleur de la femme qui accouche. C'est la sueur ruisselant sur le visage de l'homme qui cultive un sol ingrat avec le produit duquel il fera son pain. C'est la peine lancinante d'une mort physique irrémédiable. Mais la conséquence la plus horrible de ce premier péché commis de façon délibérée et la rupture de cette magnifique et constante communion avec Dieu dont jouissaient Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Mais comment la condition, l'état originel de l'homme, enfant de Dieu, l'aboutissement de la création divine, la compagnie directe, comment tout cela a-t-il brusquement pu disparaître? C'est forçable. Par la rébellion de l'être humain. Le Nouveau Testament l'explique ainsi. Ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leur pensée, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. La même chose, par définition, s'est produite dans l'Ancien Testament à cause du peuple d'Israël. David, le grand roi, réalisant son état de pécheur, s'écria, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, restaure en moi un esprit bien disposé. Seul Dieu peut restaurer ce qui a été endommagé ou détruit par le péché. Le psaume 23 dit ceci. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Et voilà la signification de la vie de Jésus, la restauration de l'homme aux yeux de Dieu, le renouvellement de sa communion avec son Créateur. L'apôtre Paul l'a défini de la manière suivante. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Cette vie, Jésus-Christ vous l'offre à la simple condition d'écouter ce qu'il vous demande de faire pour être vous aussi restaurés. Écoutez-le. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Mais connaissez-vous ce que demande Jésus? Dites, le connaissez-vous vraiment?
Alléluia, alléluia.
Ce programme de méditation biblique vous a été offert par Jacques Marchal, qui vous l'a présenté. Mais qui sommes-nous? Il y a quelqu'un qui ne porte pas d'autre nom. Nous ne sommes rattachés ni à une organisation centrale, ni à une secte terrain. Notre unique règle de foi est surtout le Père, le Nouveau Testament. Notre unique chef, Jésus-Christ. Seuls ses enseignements et ceux des apôtres font autorité dans nos vies. Parlons de ce que la Bible dit et de nos financiers à propos de ce qu'elle ne dit pas. Faites-moi part de vos idées, de vos suggestions sur ce que vous venez d'entendre et je vous répondrai personnellement. Le texte de cette émission est à votre disposition sans engagement. Écrivez à Jacques Marchal, Méditation biblique, boîte postale 2398-31086 Toulouse-Cedex. Je répète, Jacques Marchal, Méditation biblique, boîte postale 2398-31086 Toulouse-Cedex, France. Au revoir. À la semaine prochaine. Même heure.